Méchant Curieux, épisode 6. Aujourd'hui, jour du souvenir, on parle de la vie de soldat. Je reçois en studio un ex-caporal du 22e régiment. Bonne écoute! Hey, hey, salut! Tu te demandes c'est quoi Méchant Curieux? Ben, Méchant Curieux, c'est un podcast qui essaie de te faire découvrir des gens, des histoires, des métiers, des passions, bref, plein de sujets qui, j'espère, alimenteront ta curiosité. Aujourd'hui, on parle avec un ancien caporal du 22e régiment. Caporal Lajoie, bienvenue à Méchant Curieux.
Salut!
Ben, ma première question pour vous, c'est... Est-ce qu'un militaire conserve son titre même après avoir quitté l'armée? Autrement dit, est-ce que c'est caporal Lajoie ou ex-caporal Lajoie?
Ni un ni l'autre.
Non, parfait. Ça veut dire que je vais continuer à vous appeler caporal Lajoie. Correct? Je voulais juste être selon les règles, là, mais je me posais la question. J'étais curieux de savoir. C'est comme le général Dallaire. C'est-tu le général? Il n'est plus dans l'armée. On peut continuer à l'appeler général pareil. C'est beau.
Ben, ça se peut, oui. Il se fait appeler parfois comme ça, là.
Ouais.
Mais moi, ça m'intéresse.
Vous, c'est rare qu'on vous appelle caporal de la joie.
Ben non, c'est le plus beau grade dans l'armée.
C'est le plus beau grade. Ben, écoutez, je vais vous laisser la parole, caporal de la joie. Contez-nous votre vie, dans le fond.
Disons que ma vie a commencé en 1937. Et c'était un mois d'août. Et mes parents, surtout ma mère, trouvaient que je n'étais pas trop gros. Alors, on a eu de la misère à me garder en vie. Et comme j'étais le dernier de la famille de 8, naturellement, mes frères et mes sœurs s'occupaient de moi. Et j'étais doloté un peu... à cause de ça, mais peut-être ça m'a pas aidé à la longue. Et comme je vous dis, je suis venu au monde dans Charlevoix. Après quoi, mes parents ont déménagé à Jonquière. Mon père était électricien, qui travaillait pour la Donao. Il y a eu un transfert. Ben, il a eu une position peut-être plus enviable. Chez Bryce Pricewater, Kedogami. On a transféré là. Moi, j'avais 5 ans dans ça, là. Et après ça, ben, naturellement, c'était 37 ans. Après ça, 5 ans après, c'était de la guerre. C'était de la guerre où on voyait des soldats un peu partout. Dans mon coin, au Saguenay, à Chipcha, par exemple, tout ça, il y avait des soldats avec des grites qui étaient armés et qui gardaient. Je me demandais pourquoi que c'était là.
Mais, vous aviez quel âge à ce moment-là?
5 ans. J'avais 5-6 ans.
Ça, c'était la Deuxième Guerre mondiale.
C'est ça, 39-45.
Puis il y avait des soldats au Saguenay.
Oui, il y avait des soldats au Saguenay parce qu'ils gardaient il y avait des barrages, là, des trucs et tout ça, puis
okay.
C'était protégé. Et l'armée protégeait ça. Mais moi, j'étais tout jeune quand je voyais ça. Remarquez, dans ce temps-là, ça m'a pas incité de rentrer dans l'armée.
Non.
Mais c'était ma première impression quand j'étais arrivé au Saguenay. Après ça, naturellement, on a vécu comme les autres. On était à l'école et ainsi de suite. Et moi, j'ai fini mon école en 1955 avec un cours commercial et j'ai eu la chance de travailler pour la Banque canadienne nationale pour un an. Malheureusement, dans cette année, j'ai été opéré 2 fois. Et vous savez que dans ce temps-là, les employés n'étaient pas trop protégés. Ça veut dire que si ça ne faisait pas l'affaire, bye-bye, il y en a 3-4 autres qui vont te prendre ta place. Et après un an, on m'a dit qu'on ne retenait plus mes services.
OK.
Et à mon âge, j'avais 18 ans, alors elle m'a donné un moyen coup. Et j'ai... Ça m'a reculé de bien des choses. Parce que là, je me demandais comment ça se fait, ça n'a pas fonctionné. J'avais sorti avec mon co-commercial, etc. Puis j'étais... J'avais tout de suite trouvé du travail, mais pouf, ça s'effondre. Mais j'avais toujours l'espérance de pouvoir trouver d'autres choses, mais ce qui arrive, c'est que quand tu laisses un job, un travail en particulier, et que les gens te remercient, quand tu retournes trouver d'ouvrage, j'ai l'impression qu'ils font... qui vérifie antérieurement. Et à ce moment-là, ça ne m'a pas aidé énormément.
OK.
Et c'est ça qui a fait, jusqu'au temps que je sois rendu là. J'ai fait d'autres travaux, j'ai fait d'autres travails. Disons, j'ai travaillé d'autres métiers que commis. Et bon, et ma job, c'était être un commis. J'avais appris ça, le co-commercial, et ainsi de suite. Mais là, j'ai travaillé avec mon beau-frère qui était un plombier. Et puis là, je me suis dépris.
Un emploi différent un peu.
C'est ça. J'ai travaillé pour eux. J'ai travaillé à d'autres places. J'ai travaillé pour Steinberg. J'ai travaillé pour Jean. Mais c'était pas des jobs. Disons que je voulais avoir, parce que mon idée à moi, c'était de travailler les bureaux. Mais ça n'a pas fonctionné comme ça. Après quoi, j'ai végété un petit peu, parce que quand tu perds la confiance, t'es moins en train d'aller faire application, parce que sachant que ça va être un refus automatique.
Ouais,
et naturellement, j'ai manqué de confiance en moi, puis ça a fonctionné trop. Jusqu'au jour où mon beau-frère et moi, nous avons pris une gageure. On va aller faire application pour entrer dans l'armée. À Chicoutimi. Et mon beau-frère, c'est un homme. Moi, j'étais tout petit à côté de lui.
Est-ce qu'il était plus... Il était plus âgé ou...
Oui, il était beaucoup plus âgé, puis il était marié.
Okay.
Et on a été à Chicoutimi pour passer les examens pour pouvoir rentrer. On a fait application, quoi. Et moi, ils m'ont accepté, puis mon beau-frère n'a pas été accepté. c'est la première gageure que j'ai gagnée. C'est ça. Et puis, on m'a expédié à Québec pour passer les examens, ainsi de suite, puis j'ai été engagé. Et on m'a dit que j'allais à Citadel faire mon training, mon entraînement. Et j'allais être attitré au Royal 22e Régiment. Okay.
La Citadel, ça, c'est...
À Québec.
À Québec.
Oui, la Citadel à Québec, vous savez, c'est pas facile. Les plaines d'Abraham, okay. Tout ça, c'est okay. Long.
Les messieurs avec des gros chapeaux, là.
C'est ça, j'ai fait ça, moi.
OK.
J'ai fait ça. On a été sur l'école à apprendre le maniement des armes, toutes les mitrailleuses, les grenades. On fait l'exercice. On apprend à être discipliné. Quand on est jeune, c'est pas facile. Et moi, disons que ça a été un côté très facile pour moi d'être discipliné.
Okay.
Et je continue comme ça tout le temps. Comme vous savez, je suis rendu à 79 ans et plus. Ça veut dire que mon chemin est fait pas mal. Mais l'armée, pour moi, c'était bénéfique. C'était sur le côté de prendre confiance en soi. C'était merveilleux parce que si j'avais pas eu l'armée, je serais peut-être pas ici aujourd'hui.
Mais autrement dit, dans ces années-là, il n'y avait plus de conscription au Canada, je crois.
Non, il n'y avait plus de conscription. Par contre, il n'y avait pas ça, mais quand vous entrez dans l'armée, vous y êtes obligé. Vous signez pour 3 ans. Vous ne pouvez pas quitter. Si vous quittez sans permission, la police militaire va vous chercher.
Oh.
Oui. C'est,
donc, c'est comme déserter.
C'est un déserteur. Okay. À ce moment-là, c'est très important. C'est là la raison de la discipline. Quand on vous enseigne à l'armée des choses, c'est pas toujours des affaires que t'aimes entendre. Mais disons que tu rentres là, il faut que tu fasses une idée que tu n'es pas le boss.
Des bécosses.
Pas loin. Quand j'ai rentré dans l'armée, là, j'ai une anecdote à vous dire, c'est que j'avais un militaire qui sortait de l'armée. Et on était au PD juste avant de monter à Citadelle. Et juste après manger, puis là, il est venu s'asseoir à côté de moi. Puis, il dit, vous rentrez dans l'armée, oui. Il dit, j'acceptez-vous, je vous donne des conseils. Ah oui? J'ai dit, ben oui. Alors il m'a dit, quand vous êtes là, si on vous dit blanc, dites blanc. Si on vous dit noir, dites noir. Vous n'aurez pas de problème. Et c'est exactement ça que j'ai fait. Mmh. Et je n'ai jamais eu de problème. Malgré que j'étais stupide des fois, là. Mais il me disait des choses. Je disais, c'est ça, vous avez raison, c'est ça. Alors, il ne pouvait plus continuer. Et c'était la meilleure façon d'arrêter de m'espionner pour savoir si je faisais quelque chose de correct ou pas. Dans l'armée, quand tu rentres dans l'armée, c'est la discipline, l'habillement, le lit, les bottes, la rifle, pour qu'elle soit bien nettoyée, ainsi de suite. Si ça, c'est pas fait, et, tu vas être toujours, il va être toujours après toi. Parce que quand je rentrais à 60, là, c'était encore les soldats, les instructeurs de 39-45, c'était des gens qui n'avaient pas de langage, chaud trop, et qui parlaient comme ils marchaient.
Okay.
Et puis, il fallait que tu fasses attention. Et le conseil que cet homme-là m'avait dit, il a dit, oh, il avait raison. Alors, j'ai toujours fait ça, ainsi de suite. Ça a toujours bien fonctionné.
Mais pour revenir à la conscription, c'est quoi votre avis là-dessus? Est-ce que avez-vous déjà pensé à ça? Étiez-vous pour ou contre? Non, parce que ça n'existait plus au Canada, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose?
Ben, ça, c'est une question politique, la conscription. C'est, naturellement, c'est pas les individus qui ont accepté ça.
Non.
C'est le gouvernement qui a accepté, puis on dit que c'était ça. Mais voulez-vous que les gens qui dirigent disent quelque chose? Ben, si tu vas contre eux autres, tu vas te faire attraper certains. Parce que la conscription, je le sais, parce que moi, à Jonquière, on cachait les individus.
Oh.
Pour pas être repêchés, comme on dit, là. Dans l'armée, comme on dit. Il y a des gens qui allaient cacher dans le chalet au lac Kalugami, et ainsi de suite. Parce que, la police militaire venait se promener au lieu GRC. Oh. Puis ils cherchaient les individus. Puis là, ils venaient chez nous savoir ce qu'ils sont. Nous, comme bons Québécois, on savait jamais où ils étaient. Et, ils étaient cachés au lac Kalugami. Mais c'est ça qui me reste dans la tête parce que j'étais pas tellement vieux dans ce temps-là, 39-40 ans.
Mais j'ai fait des recherches au niveau de la conscription.
Oui.
Il n'y a plus beaucoup de pays au monde qui ont encore ça. Hein? Puis en Europe, il y a seulement 7 pays qui maintiennent légalement, par une loi, l'obligation de servir sous les armes, qu'ils disent. Il y a la Suisse, il y a l'Autriche, la Grèce, il y a la Norvège, la Finlande, le Danemark et le dernier pays qui va vous faire sourire, l'Estonie.
Ah ouais.
La Lituanie, il y a un dernier pays, c'est la Lituanie, a rétabli la conscription l'année passée, en 2015. Pourquoi? Ben face à la menace russe. Parce qu'il y a une menace russe, là. Aujourd'hui, on parle en 2016.
Ouais.
Parce que j'ai vu dans les... Dans les médias dernièrement, là, que il y a au-dessus de je sais pas combien de mille soldats qui s'en vont Nations Unies là, pour protéger certains pays de l'Europe contre la Russie. Là. On parle de novembre 2016. C'est quand même... Mais vous êtes pas toujours resté au Québec là, au niveau de votre carrière, au niveau de la...
Disons, ma carrière militaire a été très courte. J'ai signé pour deux contrats. C'est des contrats de 3 ans qu'on signait. Naturellement, on n'avait pas le droit de sortir. Si on signait, on voulait respecter notre contrat. Et le deuxième contrat, ben, je l'ai signé dans le but d'aller à l'extérieur. Parce que on m'avait désigné, comme j'étais commis, puis je travaillais dans les bureaux. On avait un posting au Congo. Et j'avais été approché pour aller là. Mais comme les Nations Unies ont cancellé cette option-là au Congo, ben, j'ai perdu ma shot, comme on dit. Là. J'ai voulais aller à quelque part. Et mon capitaine, qui était mon boss, comme on dit, dans le bureau, là, j'ai dit, il sort pas, on va aller à quelque part, certains, on va aller à quelque part, je te le dis. Là, j'ai dit, écoute, là, tu me promets quelque chose. Si je recycle, si on ne va pas quelque part, je demande ma permission de me retirer. Vous allez accepter. D'accord. Et c'est là qu'on a été désignés, le premier bataillon du Royal Régiment à aller à Chypre en 1964. Moi, j'ai fini mon chose, j'avais signé jusqu'à 1963, puis j'ai re-signé en 1964. J'étais à Chypre pour presque 8 mois, parce que j'étais dans le bureau, j'étais au headquarters avec le lieutenant-colonel et major. J'étais ex-officier, moi.
Okay.
J'étais un petit peu chanceux, là.
OK. Mais quand vous dites que vous avez signé pour un an à Chypre, est-ce que c'était... C'était votre... Autrement dit, dans l'armée, c'est pas, ils vous disaient pas, OK, caporal Lajoie ou soldat Lajoie, vous en allez à Chypre, vous avez pas le choix. Ils vous demandaient ils vous l'offraient?
Non. Moi, il n'a pas fait rien. Il aurait pu faire ça aussi, là. Mais moi, j'ai demandé à mon commandant, à mon capitaine Fournier. J'ai dit, promets-moi qu'on va quelque part. Moi, je voulais aller quelque part parce que j'étais là dans l'armée. J'étais pas là pour faire une carrière, moi, là. Je voulais faire une expérience.
Vous aviez gagné une gageure.
J'ai gagné une gageure. Et c'est vrai. Et j'ai dit, ça m'intéresse, c'est sûr d'être possible. Et il dit, fais-moi, ça va se faire. Et de fait, on a été à Chypre. Et j'ai revenu de Chypre, et après ça, ben, là, j'ai quitté quand mon contrat était terminé.
Puis c'était quoi, sans briser des secrets militaires, là? C'était quoi vos activités ou vos assignations à Chypre, là?
Oh, ben, à Chypre, j'étais clérical.
Clérical.
Je faisais du travail de bureau à l'intérieur du bataillon.
Okay.
C'était pas à l'extérieur.
Mais le bataillon, lui, son mandat, c'était?
Ben, c'était garder la paix.
Garder la paix.
Parce que il y avait deux nationalités à Chypre. Il y avait Chypre d'abord, premièrement, ça appartenait à l'Angleterre.
Okay.
Et à un moment donné, l'Angleterre a décidé avec toutes sortes de façons, les gens qui étaient les Chypriotes voulaient devenir indépendants, comme partout ailleurs. Alors, tu sais, on veut être indépendants, parfois, ça c'est pas trop facile. Et eux autres, ils ont devenu indépendants en 59. Et ils ont nommé un président qui était Monseigneur Macarius, qui était un prêtre catholique orthodoxe, et qui était le président de l'île de Chypre. Chypre était constitué de deux nationalités, les Turcs et les Grecs, Grecs à majorité. Par contre, l'île de Chypre est tout près de la Turquie, tout près, il n'y a qu'un bras de mer. Alors, il s'ostinait, je sais pas pourquoi, là. Moi, je me demande encore pourquoi il s'ostinait.
Il s'ostine encore, faites-vous-en pas.
Ils ont séparé l'île en deux, là. L'île a été coupée en deux.
OK.
Avec un canal. Puis il y a encore des gens qui s'occupent à garder la garde sur le canal. Il faut que les gens traversent. Les Grecs sont d'un bord, les Turcs sont de l'autre bord.
Mon Dieu, c'est presque le mur de entre le Mexique et les États-Unis qu'on va bientôt voir.
Ben, peut-être, mais c'était le mur de Berlin.
C'est incroyable.
Mais c'est ça. C'est parce que là, quand nous étions là, moi, je vous compte que quand on est arrivé, moi, j'étais le deuxième avion avec tous les dirigeants. On arrivait à Chypre. On était installé à cette Chypre. On voulait faire de la garde. On était dans un hôtel désaffecté et il fallait faire la garde. Alors, je gardais. On allait sur le toit pour regarder avec une carabine pas chargée. Que là, c'était pas facile à défendre. Et puis là, on entendait les bruits. Les bruits des carabines dans la ville de Nicosie. Ça chicanait. C'était pas la grosse guerre, là, comme on a dit. C'était à peu près comme la guerre des Turcs. La guerre des Turcs.
La guerre des Turcs.
Là, les autres, là, il y avait un qui mourait la veille, puis le lendemain, c'est l'autre qui mourait. Ça veut dire, il y avait un Grec, un Turc. Mais, je me demande pourquoi encore. Et puis, aujourd'hui, j'ai un de mes neveux qui était là en bateau. Ils ont disparu. Parce que toutes les villes, là, que moi, j'ai vu comme Kyrenia, Famagos, ça n'existe plus, ça. C'est sur le côté grec, c'est sur le côté turc. Il n'y a plus personne. Les Turcs, il n'y a pas beaucoup de monde, là. Et les Grecs, c'est de l'autre côté. Mais là, ils sont en majorité. Moi, quand j'étais là, il y avait... je me suis promené de l'île, là. C'est une île, ça, d'ailleurs, là, de 100 000 de long avec 60 000 de large. C'est pas long à faire le tour, là. Moi, j'avais, à mon bureau, un chauffeur, un garde du corps. On a fait le tour de l'île. On a tout visité l'île. On était en pique-nique. On allait faire le tour. On arrêtait un petit pas pour prendre une bière. On faisait tout le tour. De temps en temps, on avait des roadblocks, là. Si on frappait une région turque, etc., mais on n'avait pas de difficulté.
Pas de difficulté.
Étant donné que nos jeeps étaient décorés, etc., avec un drapeau bleu. Et c'était facile.
C'était facile.
Ah oui.
Mais étiez-vous seulement le... Parce qu'au Canada, il y a le 22e régiment, là, mais étiez-vous le seul régiment du Canada qui était sur place?
Non. Il y avait juste moi, il y avait juste le premier bataillon qui était là.
Okay.
Mais au bout de notre mandat de 6 mois, là, 7 mois, il y a un autre, un autre bataillon de l'Ontario qui est venu nous remplacer. On se remplaçait.
Okay.
De 6, 7, 8 mois, un à l'autre. Là.
OK. Mais j'ai fait des recherches sur le Royal 22e Régiment.
Oui.
Puis ce que j'ai trouvé, c'est que c'est l'un des trois grands régiments d'infanterie des Forces armées canadiennes.
Exact.
Fait qu'il y en a trois.
Oui.
Les militaires du régiment sont surnommés les 22.
C'est ça.
À cause de la prononciation du 22 avec un accent anglais. Autrement dit, un anglais qui dit 22, il dit 22.
C'est
22.
Ça. Définitivement.
Fait que c'est... Il a été surnommé le 22, mais surtout par les anglophones, on s'entend.
Ouais.
Les francophones, ils appellent ça simplement le 22e, le 22 ou le 22e. Pis c'est le seul régiment d'infanterie régulier, entièrement francophone au Canada.
Exact. Ben, c'est normal. Il est au Québec. Vous avez les Blackwash qui sont au Nouveau-Brunswick. Et vous avez les Canadian Guard qui sont en Ontario. Puis il y a d'autres régiments qui ne sont pas infanterie. Ça veut dire qu'ils sont l'équipement qui s'occupe des chars d'assaut, des ainsi de suite.
Okay.
Il y a des régiments qui ne sont pas, infanterie. Je pense que vous avez dit trois, là.
Oui.
Alors, t'as là. T'as les Blackwash, t'as le 22, puis t'en as une à Ontario, là.
Non. Vous en connaissez plus que moi. Moi, mes recherches limitent à Internet. Oui. Mais écoutez, Caporal Lajoie, super intéressant. Qu'est-ce que vous diriez si on prenait une petite pause?
D'accord.
Une petite pause musicale. Puis aujourd'hui, j'ai deux pièces de musique. D'habitude, Méchant Curieux essaie de faire découvrir des talents du Québec le plus possible. Mais aujourd'hui, j'ai vu que c'est le jour du souvenir. J'ai deux pièces musicales qui sont pas mal dans le sujet. Alors, on revient après la pause.
There's no time for a warning. We've got to make our move. We can't wait until morning. We'll use the light of the moon. We've got love on our side. We're one step ahead. There's no time for lies. There's no time for regret.
Holding on to love.
De retour. Ben pour continuer, je vais faire une petite capsule sur le jour du souvenir, parce que c'était un peu ça aussi le thème. C'est quoi le jour du souvenir? Cette journée-là a lieu le 11 novembre. C'est pour rappeler la signature de l'armistice de 1918, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Au Canada, pour les militaires et les fonctionnaires fédéraux, le jour est férié. Cependant, dans la province de Québec, il ne l'est pas. Bon, encore. Avant la Première Guerre mondiale, là, je vous parle des coquelicots. Ouais. Avant la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas beaucoup de coquelicots qui poussaient en Europe. Et durant les bombardements, il y avait les terrains étaient crayeux, là, qui avaient de la craie ou de la poudre de chaux. Ils étaient devenus riches, justement, en poussière de chaux. Puis ça a favorisé la venue des coquelicots, des fleurs. Mais une fois que la guerre a fini, la chaux a été rapidement absorbée et les coquelicots ont disparu de nouveau. Et puis c'est là que le coquelicot devint rapidement le symbole des soldats qui étaient morts au combat. Caporal Lajoie, on est à Chypre. Oui, oui. Là, on est rendu en quelle année?
En 1964.
64.
Oui.
Et qu'est-ce qui se passe après ça?
Ben, disons que j'ai été à Chypre à peu près, moi, on dit comme en parenthèse, ma gang. Là. Nous sommes arrivés à Chypre les premiers et nous partons le dernier. Parce que dans le jargon militaire, c'est que les gens du bureau et ainsi de suite, là, ça arrive, ça ouvre, puis quand ça part, ça referme. C'est une petite idée que je vous dis. Là. Et on est arrivé un petit peu après les autres en provenance de Chypre. Mais moi, c'est une place formidable. S'il n'y avait pas eu cette... excusez l'expression, cette niaiserie-là, là, c'est une île...
paradisiaque.
Ah, c'est une île pour passer les choses. Là, vous aviez là, des vergers. Là, les Anglais, tout le bord de la mer, il y avait tous des vergers, etc. Dans les fruits, etc. T'avais une place où, dans le jour, où il faisait chaud, d'accord. Il était tellement chaud qu'on ne pouvait pas se promener sur la plage pieds nus. Ça nous prenait des babouches. Mais il y avait dans la nuit, on dormait à 60 degrés. Il y avait une marge, là. Entre 100 et 60, là. On tombait bien parce que moi, où j'étais, c'était un campement. Il y avait des barres de ciment, il y avait c'était tout monté par l'armée anglaise avant qu'on arrive. Et on avait des tentes. C'était bien fait. Avec on avait tout des couteaux fromage pour couvrir notre lit. Là.
Vous aviez un lit de camp là, surélevé.
On n'était pas un hôtel.
Okay.
On était dans un terrain de guerre. Et on avait la cuisine, on avait la place, etc. Moi, j'avais eu l'expérience deux fois à Gagetown. On disait, écoute, on allait là avec les campements, etc. On s'organisait.
OK.
Et une anecdote sur ça, c'est la première fois que j'étais là, on arrivait, on appelait ça un pancho motel.
Pancho.
Un pancho. Les panchos pour couvrir, pour boire de la pluie. On collectait les panchos. On se faisait un pancho motel.
OK.
On avait des pneumatiques. On couchait sur ça. Puis le matin, ben, j'avais les fesses à l'air.
OK.
J'avais les fesses à l'air et les fesses à l'eau.
Fesses à l'eau.
Il y avait mouillé quelque chose, puis là, j'étais dans l'eau. Mais c'est la première année que j'étais à Gagetown et on m'a plus pris après. Je me suis organisé. Mais revenir à Chypre, c'est une place, je vous dis, intéressante où j'étais. Nous étions juste à côté de l'aéroport Laimé, qu'on appelle les Laimé, c'est des anglophones, là, les Anglais. Là, les Anglais étaient là, eux autres, avant nous autres, là. L'île, c'est eux autres. Ben, ils avaient approprié l'île bien du temps avant, là. Et c'était une belle place. Mais ce qui est comique, c'est qu'on il y avait les Trudeaus.
Les Trudeaus?
Ça avait cliqué Trudeau, là. Trudeau, c'était le premier ministre. Hein. Trudeaus! On allait chez Trudeaus en haut. Il y avait de la neige en haut.
Okay.
On montait le matin là, vers 8h, 9h. C'était tout blanc. Puis à 4h d'après-midi, il n'y avait plus rien.
C'était fondu.
Tout était fondu.
Hmm.
C'était un pays, c'était une île qui avait des tendances comme la Suisse, les montagnes. Du côté des Trudeaus, là. Il y avait des plans de montagne et des villages, ainsi de suite. C'était. Tu rencontrais les gens. Il y en a qui parlaient anglais. Ah, voyons, excuse. Il y en a qui parlaient anglais dans ça, là. Mais les Suisses, il y en a qui parlaient français. Les Suisses, il y a des francophones, là. Il y a des gens qui restaient là, qui venaient là pour passer un ou deux mois. Puis on retournait chez eux, et ainsi de suite. Comme nous, on va en Floride, puis on revient ici. C'est une belle place, mais...
Toute bonne chose à une fin.
C'est ça. Aujourd'hui, on a tout changé ça.
Fait que vous êtes revenu...
Je suis revenu en 1974. Moi, j'ai arrivé, mars 1974. Je suis revenu en octobre. Je suis revenu en octobre 1974. Et
parce que c'était terminé.
Ben, nous, le 21e et le 22e étaient terminés.
Okay.
Notre séjour était terminé. Il y avait un autre, les autres bataillons qui étaient là. Mais c'est nous qui avons bâti, nous sommes les premiers qui arrivaient à Chypre. C'est nous qui avons tout construit, je veux dire, les places, parce qu'on avait des places stratégiques. C'est tout nous qui avons construit ça, le Royal 22e Régiment. Les autres qui ont arrivé après, tout était là. C'est nous qui l'avons fait.
Oh.
Alors, on peut se glorifier de ça. C'est, on est arrivé là. Moi, mon colonel, lieutenant-colonel, il s'appelait Woodcock.
Woodcock?
Oui. Et quand on poussait sa parade, il y avait toujours des farceurs qui disaient « On peut-il dire votre nom en français? » Woodcock.
OK.
C'est des anecdotes.
Ah, c'est des bonnes. N'avez-vous d'autres comme ça, des anecdotes, des bonnes anecdotes là, que notre auditeur aimerait entendre?
Non, peut-être que ça serait peut-être. Je devrais me réserver un petit peu plus parce que.
Non, c'est des bonnes anecdotes.
Je ne veux pas. Je ne vais pas nuire à mon premier bataillon.
Non, mais il y a sûrement d'autres anecdotes. Que...
Ben, des anecdotes, on a
des, toujours. Des trucs pour se sauver de pénitents, de...
Ah, ben moi... Ben... non, disons qu'on peut-tu revenir en arrière de ça? Moi, j'étais responsable de toutes les charges de la provoté. La provoté, ben donc, il frappait quelqu'un hors contexte. En ville de Chypre, il y avait un coffee qui appelait. Un coffee, c'est où tu rentres à telle heure. Et il était pas en train, alors il ramassait. Il l'emmenait. Il faisait le char. C'est moi qui recevais.
OK.
Il n'y avait pas grand-chose qui arrivait.
Non.
Moi, je me suis fait prendre deux fois. J'ai sorti en ville. On m'a attrapé parce que c'était coffee, il était haute. Je suis revenu à la caserne, j'ai repris un autre taxi, je retournais à la même place où j'étais. Je me suis fait reprendre, puis ils m'ont ramené comme ça. J'ai dit, le taxi va pas coûter cher, c'est vous-là qui m'avez amené. Puis là, ils m'ont envoyé une charge. C'est moi qui reçois.
OK.
Quand je regarde ça, je dis, eh, voyons, il envoie ça au lieutenant colonel, qu'il va aller la jouer. Case dismiss.
Attendez, c'est ce son-là, hein, je pense.
Là-dessus.
Case dismiss.
Case dismiss, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire no charge.
Classé, dossier classé.
C'est dossier classé. C'est, ça veut dire ça. C'est no charge automatiquement. Là, moi, je retournais ça à provoquer. avec l'assentiment du colonel, du colonel. Mais pour vous autres signer, il y avait des choses automatiques. Là. Tic! C'était les... avec la chose, on envoyait ça, bonjour. Puis, là, ça venait. À un moment donné, ça m'a rebondi. Colonel Woodcock qui est arrivé, elle a dit, comment elle est revenue, venez me voir. La propriété me dit qu'il y avait des choses qui se passaient ici. Ah oui? Puis, il y avait tout des réponses Casey Smith. Ça se peut-tu? Plus fort. Peut-être, je ne sais pas. Là. De quoi vous parlez, là? Il dit, la joie.
La loi.
La joie, c'est la dernière fois. Arrêtez-moi plus ça.
La loi du silence. Mais j'ai déjà entendu parler aussi de trucs, là, parce que c'est assez sévère, là, l'armée, au niveau le matin, tu fais ton lit. J'ai déjà entendu de.
Oui. Quand j'ai fait mon cours de sous-officier junior, ça, c'est le caporal, pour arriver caporal.
Okay.
Vous savez, caporal, sergent, l'armageur, c'est bon. Au caporal, on avait un cours, etc. Puis c'était exigeant. Il fallait que ton lit soit carré, bien fait, avec chaud, et tes petites pieds d'une paliche, bien clair, ainsi de suite. Ta carabine, tout étendu sur ton chaud, avec qu'elle soit propre. Parce qu'il y a un gournet, il fallait que tu passes ton poule trou dans le canon. Ça soit bien nettoyé, bien vu.
Wow.
Et là, quand tu commences, là, il était là, il était là, puis d'abord, vos bottines, sont pas correctes. Pouf! Avec sa canne, le lieutenant, il paquait
Volontairement.
Volontairement. Là, il disait, votre bottine n'est pas correcte. Sir, demain matin, ça va être correct. Et là, bon, mettez ça. Là, il disait, votre lit n'est pas correct. Sir, demain matin, mon lit va être correct. Mais moi, je me couchais à côté avec un oreiller, puis avec on avait toujours des sleeping bags, et ainsi de suite. Là. Couché à côté.
À côté, à terre.
À côté, à terre du lit. Okay. J'avais pas touché à rien.
Pour pas que le lit soit
dessus. Là, il repassait le matin. Hey, c'est propre, c'est beau, votre lit. C'est la même affaire qu'hier. Je disais ça moi-même. Ça a été l'histoire. L'histoire pas avec moi. J'ai déjà vu passer une bottine. le gars à côté avait quand j'ai la bottine au dessus. Elle m'a passé sur le bout du nez. Là, il m'a dit, avez-vous vu votre confrère lancer la bottine? Non, monsieur, il était à l'attention.
Y avait-tu d'autres choses, genre, je sais pas, de l'alcool, des cigarettes, des affaires? Ben, peut-être pas des cigarettes, c'était permis, mais pense pas que l'alcool c'était permis, là.
Non.
Mais je sais pas, d'autres choses là, qui vous viennent en tête.
Non, mais je sais pas que je devrais en parler.
Ben, on est juste entre nous, là, caporal.
disons qu'à un moment donné, naturellement, comme j'étais célibataire, et que les salaires, à part ça, là, quand je rentrais dans l'armée, c'était 90$ par mois.
OK.
Que tu sortais deux soirs dans le mois, puis c'était tout bête. Il fallait durer pour la rabattre. Et là, j'ai dit, il faut forcément m'organiser pour augmenter mes revenus. C'est là qu'il m'est venu l'idée de spéculer un petit peu.
Spéculer.
Que là, j'ai dit, je me suis fait un paquet d'argent un petit peu. Alors, j'ai passé le message que je pouvais peut-être dépanner certaines choses s'ils étaient mal pris, ainsi de suite. Moyennant, rémunération substantielle. On va parler de pourcentage.
Vous aviez un grand cœur.
Ah!
Une grande poche.
Là, je passais de l'argent à ces gens-là, et puis ils me remettaient chaud, mais il y en a qui trichaient. J'avais deux chums, moi. J'avais un nommé Flower, 6 pieds 4. Puis Thibault, qui était de Rouski, qui mesurait 6 pieds 2. Ils avaient l'as. C'était mes chums. c'était mes récupérateurs. Quand j'allais voir les amis, j'allais là au milieu de la rang, les autres étaient toujours à côté de moi. Et là, ça excitait un petit peu à payer. Des fois, je magasinais. Je ne donnais pas tout à fait le bon temps, mais d'abord qu'ils m'en donnaient un peu, j'acceptais. C'était charitable.
Oui, c'est... Charité bien ordonnée, comme il dit.
Que là, c'était ça comme ça, mais c'est tout. Ça n'a pas duré longtemps parce que moi, j'étais dans un bureau, puis j'ai ouï dire qu'il y avait quelqu'un qui faisait un petit peu le Sherlock dans la compagnie. J'ai le Sherlock dans la compagnie. Ça serait pour moi? j'ai arrêté ça.
C'était la fin de votre carrière. Mais dites-vous que si ça se passait comme ça dans ces années-là, aujourd'hui, on est mieux de pas y penser.
T'as compris.
Parce que c'était des petits délits.
Mais il y a une autre anecdote, oui, peut-être plus utile que ça. C'est parce que moi, j'étais un amateur de bière.
OK.
Et naturellement, on était dans le bureau. Des fois, on n'allait pas dîner. On avait des sandwichs à 6-8. Et on n'a pas vu d'idée. J'amenais ma bière. Je la mettais dans bas, la toilette, la chose. L'eau était froide.
Dans le réservoir. Mais vous l'aviez pris où, cette bière-là?
Ben, je l'achetais au Metz de Cabral. J'achetais ma bière.
Dans OK.
J'emmenais ça, puis je mettais ça dans la chose. Puis, de temps en temps, ben, quand je me suis, j'allais prendre ma bière. Et imaginez-vous que je suis arrivé une journée, il n'y avait plus de bière.
Il n'y avait plus de bière dans le réservoir de la toilette.
Il y en a qui ont trouvé mon truc.
OK. La petite chaînette du réservoir là, qui fait des ballons là, était là, bloquée. Le gars a ouvert le couvert puis jackpot.
Il a arrêté là. C'est bon. Il a dit, hey, pas vous payer pour les autres, moi, là. Là,
okay.
Là il y en a qui se servaient. D'un coup, non, je n'ai pris un cube dans mes quatre. Il ne prenait pas les quatre. Il en a lâché une. Il dit, Va-t'en le chien, toi, là. Ça a arrêté, là. Ce bon, sont mes aventures militaires.
C'est des petites aventures.
Quand j'ai quitté l'armée, j'ai eu un offre à l'armée de m'en aller ailleurs. Ils m'avaient offert un posting à Rimouski en charge du bureau de recrutement avec un lieutenant de la marine. C'est dans ce temps-là que la fusion des trois forces
se
faisait. Et j'arrêtais là avec la marine. Mais le salaire qu'ils nous donnaient comme célibataires, quand même qu'ils donnaient une pension pour rester, c'était pas... Les gens mariés étaient complètement différents avec les célibataires. Les gens mariés avaient un salaire raisonnable, puis les soldats célibataires avaient un salaire déraisonnable. Et c'est ça. Moi, j'étais pas marié, alors j'ai quitté. D'abord, quand j'ai quitté, j'avais une job déjà avec Chaco, prêt à prendre. Quand j'ai sorti de l'armée, je suis rentré là. J'ai pas perdu de temps. Mais c'était ça. Mais je vais vous dire une chose. L'armée, pour moi, ça a été bénéfique. Ça a été un sauveur. Sans ça, je ne serais pas ici.
Discipline.
Exact. Mm. Discipline, surtout discipline, parce que même là, aujourd'hui, je suis encore comme ça. Je suis méthodique. En vieillissant, vraiment, écoute, là, je suis sur le perron de la porte. Il manque juste quelqu'un pour l'ouvrir. Quand ça arrivera, je partirai. Pas plus simple que ça. Comme ça que je suis.
Tu veux rejoindre Méchants Curieux? Facile. Sur Facebook et Twitter, @méchantscurieux et par courriel méchantscurieux@gmail.com. De plus, tu peux commenter le podcast dans iTunes, mais je pense pas que c'est possible dans Google Play Music. Tes commentaires seront appréciés, les bons comme les moins bons. Caporal Lajoie, je vous remercie pour votre générosité d'avoir pris le temps de parler de vous et de votre expérience en espérant que notre auditeur a apprécié. Merci encore.
Bienvenue.
toute une expérience. En ce jour du souvenir, alors aujourd'hui, la musique de fermeture, je vous laisse sur une pièce de Chris DeBerg. La pièce s'intitule, c'est un drôle de titre, The This Song For You. Se retrouve sur l'album Spanish Train et Other Stories. C'est un album très connu. C'est difficile de trouver mieux comme pièce musicale pour cet épisode. Alors, sur ce, fais des folies, profite de la vie, mais n'oublie pas de rester curieux.
Hello, darling, this is the army. I've just got the time to write. Today we attack, there's no turning back. The boys, they're all ready for the fight. Yes, I'm well, but this place is like hell. They call it Passchendaele. In 1917, the war must be ending, the general said. This attack will not fail. So I'm writing down this simple little melody. When you play it, my love, think of me. Together in this song for you. And it goes la 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 la. Still out there, wounded in some shell hole. They say this war will end all wars. Oh God, I really hope it will. Oh, how's old England? Are they still singing those songs that we love to sing? When all this is over, we'll go sailing in Dover, catching fish like we used to with a string. Oh, I miss you, I miss you, I miss you so. If they get me, my love, you will.